ce dialogue que nous avons entendu au début de l'évangile de Jean est d'une importance capitale parce que ce sont dans l'évangile de Jean les premières paroles du Christ. Pourtant, pour des paroles capitales, avouez que c'est quand même un petit peu curieux. Un dialogue trop simple et trivial, les disciples qui disent à Jésus « Où demeures-tu ?» Jésus dit « Venez et voyez » et le texte nous dit « Les disciples vinrent et ils virent et ils demeurèrent là une journée. » Bon, moi je suis un lecteur naïf de l'évangile et quand je lis un dialogue pareil, je me dis « Mais quel est l'intérêt de ce type de dialogue ?» Je soupçonne évidemment qu'il y a une histoire derrière parce que je ne vois pas du tout le sens que cela peut avoir à première lecture. Alors est-ce que vraiment le sens premier est celui qu'il faut trouver? C'est-à-dire qu'il demande à Jésus « Où t'habites ?» et Jésus dit « Ben venez voir !» Il voit et il trouve ça formidable, autrement dit. Est-ce que ça veut dire que, effectivement, c'est extraordinaire de trouver la maison de Jésus? Bon, je ne pense pas. D'abord parce que si c'était si important que ça, Jean nous dirait où Jésus habitait. Mais en fait, personne ne le sait où il habitait. On ne le sait pas. Peut-être alors, je me suis dit, continuant mon idée, peut-être que l'idée générale, justement, c'est que, précisément, Jésus n'habitait nulle part. Et que donc, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il n'y avait rien à voir. Ça, on le trouve dans l'évangile de Luc, quand Jésus dit « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Donc peut-être que justement, l'idée, c'est ça, c'est qu'ils lui disent « Où habites-tu ?» Et il dit « Venez et voyez. » Et ce qu'il voit, c'est qu'il n'y a rien à voir. Il voit qu'il n'a pas de maison, en fait, et qu'il n'habite nulle part. Cette idée est assez intéressante. Parce que, justement, peut-être que ce que comprennent là les disciples, c'est quelque chose de très important. C'est que Jésus n'habite nulle part de particulier, tout simplement parce qu'il habite partout. Il n'y a pas, Jésus n'est pas plus présent dans cette église ou dans une autre que dans la rue ou dans votre chambre à coucher ou dans votre salle de bain ou dans le métro, parce que Jésus n'est pas localisé à un endroit, mais il habite partout. Et donc, il est partout chez lui. Il n'y a pas de lieu saint, vous savez, pour nous, les protestants, où tout lieu est saint, parce que si Jésus n'habite nulle part, comme je crois que Jésus est présent, c'est qu'il habite partout. Et peut-être que, justement, le propre du croyant, c'est qu'il est partout chez lui, ou qu'il est nulle part vraiment chez lui, je ne sais pas. Enfin, le croyant, il est comme le Christ, partout, étranger et voyageur. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur les migrants. Je ne vous dirai pas ce qu'il faut croire là-dessus. Mais ma conviction, c'est qu'en fait, personne ne doit se sentir, je dirais, propriétaire de quoi que ce soit. Et le propre du chrétien, c'est qu'il est partout chez lui et que où qu'il soit, il sait qu'il est là comme un étranger. Parce que nous sommes tous étrangers et voyageurs sur cette terre. Et aujourd'hui, nous sommes ici, peut-être que demain, nous serons ailleurs. Et de toute façon, nous croyons demeurer dans un lieu, mais ce lieu, nous le quitterons un de ces jours. Au bout de quelques années, comme dit la Bible, 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Et donc, nous n'habitons vraiment nulle part, nous ne demeurons pas où que ce soit, mais nous sommes tous des buées de passage. Et puis, peut-être aussi que, effectivement, Jésus, il demeure en lui-même. Jésus est sa propre maison. Et le propre du croyant, c'est justement d'être comme ça. Jésus n'a pas besoin d'un lieu pour demeurer. Et en cela, il s'oppose au judaïsme, puisque dans la pensée juive, ce qu'on appelle le lieu, makom en hébreu, le lieu, c'est le temple. Et donc on croyait que Dieu était présent, résidait dans le temple de Jérusalem. Et Jésus dit, eh bien, il n'y a pas de lieu, parce qu'il demeure en lui-même, il est son propre lieu, Jésus est le lieu de la présence réelle, et il suffit de suivre Jésus pour trouver la présence de Dieu. Bon, cette idée me plaît beaucoup, je crois qu'il y a des choses vraies là-dedans, mais je pense qu'elle ne rend pas justice au texte, parce que le texte ne dit pas « ils virent qu'il n'habitait nulle part et donc ils le suivirent sur le chemin », c'est en gros le message que je voulais vous dire, mais le texte dit « ils virent où ils demeuraient et ils y restèrent une journée ». Et donc, il y avait bien quelque chose à voir. Alors, qu'y avait-il à voir? Peut-être que, justement, ce n'était pas un lieu physique, mais qu'ils ont compris que Jésus demeurait dans le lieu où on le suit, en quelque sorte. C'est-à-dire que le lieu où est Jésus, c'est quand, pour trouver où est Jésus, où il demeure, il faut le suivre et être en chemin avec lui. Parce que, je vous l'ai dit, le Christ n'est pas dans un lieu physique, mais il habite dans le cœur du croyant qui est en train de le suivre. Et expérimenter de suivre le Christ, de marcher à sa suite, eh bien, c'est découvrir où Jésus demeure. Jésus est présent lorsqu'un croyant est en chemin et suit le Christ. C'est là la demeure même du Christ. Et ça me fait penser à une phrase un peu violente que j'ai dite une fois à quelqu'un qui disait qu'il voulait absolument faire le voyage onéreux pour aller au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il me disait « Ah, je veux me retrouver, je veux retrouver la proximité du Christ. » Je lui dis « Mais madame, vous voulez être près du Christ ? Prenez l'argent du pèlerinage, donnez-le aux pauvres et vous serez beaucoup plus près du Christ qu'en allant vous promener sur un lieu de tourisme, sur un lieu saint reconstitué et probablement faux, qui finalement ne ressemble qu'à Disneyland. » Donc oui, Jésus n'est pas plus présent au Saint-Sépulcre, à Bethléem ou ailleurs. Jésus est présent dès qu'un disciple, à la suite du Christ, eh bien, s'intéresse aux plus pauvres et vit d'amour et de grâce. L'idée me semble intéressante, mais je crois encore que ça résiste au texte. Parce que le texte dit plus que cela. Il ne dit pas que le Christ habite dès que dans mon cœur, quand je suis fidèle au Christ, Christ est présent en moi. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux disciples qui y vont et qui voient. Or, dans la Bible, quand il y a deux personnes, c'est le propre d'un témoignage objectif. Quand il y a deux témoins, la chose est sûre. Et donc, on n'est pas dans le subjectif. Ce n'est pas les disciples qui découvrent juste que Jésus est présent dans leur cœur, mais ils découvrent quelque chose d'objectif et de concret. Et donc, peut-être que ce texte en dit beaucoup plus. D'autant que le vocabulaire utilisé là, moi, en tant que théologien, me fait allumer des clignotants. En effet, il y a le mot « demeurer » ou « demeures-tu », ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent là. Le mot « demeurer » dans l'évangile de Jean est extrêmement important et il est toujours utilisé dans un sens très théologique. C'est, par exemple, dans Jean 14, 10, Jésus dit « Le Père demeure en moi ». Ou encore en Jean 15, Jésus dit « Il faut que vous demeuriez en moi ». Ou encore en Jean 15, plus loin, Jésus dit « Demeurez dans mon amour ». Ou encore dans la première épître de Jean, il dit « Qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». Et donc le verbe « demeurer » vaut dire beaucoup plus que simplement « habiter ». Ça veut dire « être là pour une dimension en quelque sorte un petit peu éternelle. Et puis l'autre mot de vocabulaire, c'est le mot « voir ». Ils vinrent et ils virent. Et voir, dans l'évangile de Jean aussi, c'est pas juste jeter un coup d'œil et dire « bon, ça va ». Voir, c'est saisir. Et en effet, Jésus dit toujours dans Jean « qui m'a vu a vu le Père ». Où il dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils de l'homme nous l'a fait voir ». Et donc voir, vous voyez, c'est un message très important et essentiel. Et du coup, je soupçonne qu'il y a dans ce message beaucoup plus qu'une simple idée de savoir si Jésus habite à la trois rues du paradis ou deux rues du ciel, mais que vraiment il s'agit là de questions existentielles fondamentales. Et je crois même que ce petit dialogue, en quelque sorte, est comme un résumé de tout l'évangile de Jean et de toute la démarche fondamentale du chrétien. Parce que reprenons, avec cette visée un peu théologique, reprenons l'ensemble du dialogue. Au départ, donc, on nous dit qu'il y a deux disciples qui suivent Jésus, bon, comme vous, comme moi, comme des chrétiens qui suivent Jésus, et c'est très bien, mais à un moment donné, ils vont faire une découverte fondamentale qui va tout changer. Et l'élément déclencheur, c'est la question que va poser Jésus. Il voit quelqu'un qui les suit. Donc il vous voit, vous êtes chrétien, vous êtes peut-être baptisé, vous venez à l'église, c'est très bien. Et donc Jésus se retourne et dit, vous là, que cherchez-vous? Quelle belle question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est bizarre parce que Dans Jean, Jésus est montré comme étant omniscient. Il sait tout à l'avance, il devine à l'avance les pensées des gens, etc. Donc, il ne se renseigne pas pour savoir, on dit, mais vous voulez quoi les amis? Non, Jésus sait très bien le cœur de l'homme. Et donc, s'il pose la question, c'est pour que les disciples se la posent. Et donc, du coup, c'est une question que Jésus nous demande à nous poser nous-mêmes, c'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche dans le fond, dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche? Et il ne suffit pas de se dire chrétien pour l'être vraiment. Il faut savoir ce qu'on cherche dans la vie. Quel est notre objectif, notre visée, notre quête fondamentale? Qu'est-ce qui est pour nous l'objet de ce que nous désirons le plus ardemment désirer dans notre vie? C'est là que se joue la question de notre existence. Alors vous cherchez quoi dans votre vie? Le pouvoir, la réussite, l'argent? Bon, vous avez l'habitude des sermons, ça c'est pas les bonnes réponses. Mais ils cherchent autre chose. Et les disciples ont une bonne réponse. Ils disent, eh bien voilà ce que je cherche. Je veux savoir où tu demeures. Et donc je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une maison matérielle. Parce que demeurer, dans le texte de l'Évangile, ça veut dire demeurer éternellement, comme souvent d'ailleurs, il y a demeurer éternellement. Pour habiter, il y a un autre mot grec. Donc c'est pas où habites-tu, c'est où demeures-tu. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'il y a en toi qui est de l'ordre de l'éternel? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui demeure éternellement? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui ne passe pas avec le temps? Qu'est-ce qu'il y a que je peux trouver en toi qui dure et qui soit vraiment consistant en quelque sorte? Et c'est la recherche de l'éternel qui était une quête absolument essentielle. Alors Jésus, pour répondre à cela, dit « Venez et voyez ». La réponse est simple, si on veut trouver l'essentiel, il faut d'abord venir, c'est-à-dire sortir de soi-même, sortir de là où l'on est, faire l'effort d'aller ailleurs, de se déranger un petit peu, d'aller vers l'extérieur. Il faut sortir de soi, ne pas se contenter de ses petites certitudes et de ses habitudes, mais accepter de sortir. Voilà, venez, sortez de chez vous. Et puis, s'arracher de soi-même pour aller vers le Christ, et puis, dit-il, voyez. Alors le texte nous dit, ils vinrent et ils virent. Alors qu'est-ce qu'ils voient? La seule chose qu'on voit dans ce texte, c'est les disciples, bon d'accord, mais ils ne voient pas eux-mêmes, et c'est le Christ. Donc je pense que ce qu'ils voient, c'est Jésus lui-même. Ils vinrent à Jésus et ils virent quoi? Ben, ils virent Jésus. Et ça suffit. Parce que Jésus dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et donc on peut essayer de voir Dieu à travers le Christ, c'est-à-dire qu'en regardant le Christ, on voit à travers lui ce qui sont de l'ordre des valeurs éternelles, parce que le Christ lui-même nous dit ce qui est la seule chose qui compte dans la vie, c'est-à-dire le service, l'amour, le pardon, l'humilité, le don de soi, et ça, c'est ça la vraie valeur éternelle, c'est la seule chose qui reste. Parce que tout ce que nous possédons, et même nos maisons, nos demeures, ne demeurent pas, elles tomberont un jour et nous mourrons peut-être avant elles ou après elles, je ne sais pas, mais tout ce après quoi nous courons sur terre n'est pas de l'ordre du demeure, mais ce qui demeure, c'est ce qui est donné, c'est ce qui est partagé et ce qui est transmis. Et c'est ça que comprennent, je crois, les évangiles, de voir que la seule chose qui demeure, c'est ça. En effet, dans notre vie, comme disait le philosophe Héraclite, et il avait raison d'un point de vue matériel, « panta rei », tout coule et tout passe ». Ça c'est vrai, tout coule et tout passe, ce qui est aujourd'hui ne sera plus demain. Et on parle de demeure, nos maisons, nos belles maisons, nos appartements, un jour seront détruites. Et je vais vous le dire, même un jour, Notre-Dame de Paris sera détruite, et la cathédrale de Chartres aussi. Et tout cela ne sont pas des choses éternelles. Et donc dans notre vie, on s'en rend compte, peut-être que les vieux s'en rendent compte plus que les jeunes, tout est caution, tout est condamné à passer et à disparaître. Et il est essentiel de trouver ce qui est stable et ce qui demeure éternellement et qui n'est caution à rien. Alors quel est le lieu de ce qui demeure éternellement? Eh bien c'est ce qui est en Dieu, c'est notre foi en Dieu peut-être aussi, ce que nous transmettons, mais aussi notre foi en Dieu, ce qui est dans notre cœur, et celui qui a la chance de comprendre que Dieu l'accompagne et qu'il est présent dans sa vie, eh bien, il emporte partout un trésor extraordinaire que personne ne peut lui retirer. Et si vous avez ce Dieu avec vous, et je vous invite à travailler, à vous familiariser avec cette présence de Dieu. Si vous ne la ressentez pas, on peut apprendre à découvrir que Dieu est présent et de faire grandir ce sentiment religieux qui est une chose merveilleuse. Et si vous avez Dieu avec vous, ce sera où que vous soyez, quelle que soit la situation, un lieu de stabilité, un lieu de bonheur, un lieu de tendresse, un lieu d'amour et de bonté, et ça jusqu'à votre dernier souffle. On peut vous envoyer dehors, on peut vous chasser de chez vous, vous pouvez perdre vos métiers, vos parents, vos enfants, personne ne pourra vous retirer cette présence de Dieu et cet amour de Dieu qui vous accompagne. Et vous pouvez perdre la santé, vous pouvez être envoyé dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, aussi glauques qu'ils soient, où que vous soyez, Dieu ne vous abandonnera jamais. Et cette foi, si vous arrivez à la construire ou à la voir et à l'entretenir, est vraiment le trésor le plus extraordinaire qui soit, parce que vous avez en Dieu, et jusqu'à votre dernier souffle, un ami, un tendre père à vos côtés. Alors les disciples comprennent un petit peu cela, et finalement ils font là une découverte, je crois, essentielle. Le texte nous dit « ils demeurèrent avec lui ce jour-là ». Alors là encore, je vous ai dit, moi je suis un lecteur naïf, donc je lis et je me pose des questions sur les mots. Pourquoi ce jour-là ? Soit parce que le jour, eh bien c'est le jour qui s'oppose à la ténèbre, donc quand ils découvrent cette présence du Christ, soit en agissant à sa suite, soit en se disant que Jésus est leur ami près d'eux, eh bien ils sont dans la lumière et non plus dans la nuit. « Moi, dit Jésus, je suis la lumière du monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, mais soit dans les lumières de la vie. » Ou alors, peut-être que je vous dis des belles paroles sur la foi, mais moi-même, ma foi a des hauts et des bas, et je me dis, ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Peut-être que c'était juste ce jour-là, et que le lendemain, ils n'étaient plus avec lui, parce que Dieu n'est pas toujours présent dans nos vies. Mais ça n'est pas grave. S'ils l'ont vu une fois, ils ont trouvé ce que c'est que cette présence de Dieu. Entrevoir ce qui est éternel, un éclat de foi dans notre vie peut illuminer toute notre vie. Notre vie n'a pas besoin d'être une permanence d'une foi extraordinaire. Il suffit d'un éclat de foi à un moment ou l'autre, d'un éclat de sentiment religieux, d'un éclat d'émerveillement dans une situation ou l'autre pour comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et qui nous accueille. Et donc ce jour-là, ils découvrent quelque chose et ils ont compris quelque chose. Et là, ils vont garder le regard sur ce jour-là et ça va les nourrir toute leur vie. Et puis dernier détail curieux, excusez-moi, je suis vraiment un élève qui pose les questions embarrassantes, mais le texte conclut en disant « et c'était à la 10e heure ». Bon, alors pourquoi la 10e heure ? 10e heure, c'est, attends, je réfléchisse, c'est 4 heures d'après-midi, je crois, c'était 18h à 18, de 6h à 18h, les 12h, donc. Bon, on s'en fiche que ce soit à la 10e heure, sauf que 10, évidemment, dans la Bible, ça renvoie aux 10 commandements. Et donc, du coup, j'ai deux lectures là-dedans. Une un peu moralisatrice et calviniste, et l'autre plus généreuse. Je commence par laquelle ? Bon, je vais commencer par la plus généreuse parce que j'ai un caractère désagréable. La plus agréable, c'est de dire, ils découvrent qu'est Jésus et ils sont propulsés immédiatement à la 10e heure. C'est-à-dire que du coup, ils accomplissent par là l'ensemble des 10 commandements. Et donc, il n'y a plus besoin de commandements. Le seul commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu vas vers Jésus et tu le suis. Tu vas vers Jésus et tu vas à sa suite, au secours des plus pauvres, et en faisant ça, tu seras propulsé directement à la 10e heure. Il n'y a aucun autre commandement que celui de découvrir la grâce de la présence du Christ. Ça, c'est beau, ça. Mais l'autre lecture, je voulais l'enlever, puis après, je me suis dit, je vais quand même la garder, parce qu'elle n'est peut-être pas fausse non plus, mais vous choisirez celle qui vous convient le mieux. C'est de dire, il faut qu'ils arrivent à la 10e heure, pour être en mesure de comprendre cette notion de présence de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est très calvinien. Calvin prêchait la grâce, mais il disait « La grâce n'est pas une grâce à bon marché, pour dire « faites n'importe quoi et tout est autorisé ». Obéir à la loi de Dieu est une sorte de préalable indispensable. Nous ne pouvons pas nous complaire dans une vie déréglée et prétendre voir la lumière du Christ. La vision du Christ est importante, mais elle nous permet d'aller au-delà, si vous voulez, d'une vie bien honnête et bien réglée. Alors, c'est pas si méchant que ça, parce que je crois que globalement, pour la majorité d'entre vous, je ne ferai pas le tri, vous êtes globalement plutôt honnête. Finalement, les 10 commandements, c'est pas un gros problème. Si tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, ça va, vous êtes à peu près en ordre. Donc finalement, vous êtes des gens bien élevés, vous faites ce que vous pouvez pour ne pas faire de mal, pour ne pas être désagréable avec les gens, pour ne pas tricher, pas mentir et tout ça. Donc tout ça, c'est très bien, la petite morale bourgeoise. Je suis pour, hein. Mais ce que dit Jésus, c'est qu'on peut aller plus loin qu'une vie honnête. Le fait d'être bon, honnête et généreux ne suffit pas à l'accomplissement de la lumière. Comme le jeune homme riche, dont on nous dit qu'il respectait tous les commandements, et Jésus lui dit « Il te manque une chose ». Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Eh bien, c'est ça, suis-moi. Il te manque une chose. C'est au-delà de la petite morale et des commandements, de ce que vous voulez. Il te manque une chose, c'est de sortir de vous-même et d'aller vers le Christ et de découvrir qu'il n'a aucun lieu où reposer sa tête, mais qu'il est lui-même la demeure de l'Éternel. Alors, la recherche du Christ est ce qui permet de découvrir ces vérités éternelles et donne l'accomplissement d'une vie droite. Afin, comme le dit Jésus un peu plus loin, que vous demeuriez en moi et moi en vous. Voilà la demeure. Si Jésus demeure en vous, vous demeurerez en lui, et là vous avez une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen.